Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Benoît Feit au micro, et permettez-nous de vous dire que c'est avec grand plaisir que nous vous présentons cette toute nouvelle émission. Ce soir, pour ouvrir la saison, nous avons décidé de donner la parole à deux acteurs clés du monde laïque belge francophone, à savoir Henri Bartholomé Hussen et Eliane de Proust, respectivement président et secrétaire général du Centre d'Action Laïque. Ensemble, nous allons voir comment la laïcité, en tant que valeur universelle, entend relever plusieurs défis qui se présentent à elle aujourd'hui, tant au niveau local qu'à l'échelle de l'humanité tout entière. Nous parlerons de ce qui rassemble les laïcs, mais aussi de ce qui les divise. Nous parlerons aussi de la façon dont la laïcité est parfois perçue par le grand public. Et nous verrons à ce sujet qu'il n'est pas forcément inutile de repréciser certaines notions. Henri Bartholomé Hussen, Eliane de Proust, bonsoir.
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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous donner la parole, je vous propose de faire tout d'abord un petit tour de l'actualité laïque en Belgique et dans le monde. Au chapitre belge, tout d'abord, selon une enquête menée à Bruxelles par l'ASBL Objectif, le nombre de demandes d'acquisition de la nationalité belge aurait chuté de plus de 65% en 2013, des chiffres corroborés par l'Office des étrangers. Selon l'ASBL Objectif, cette diminution importante est principalement due au durcissement des conditions d'acquisition de la nationalité belge imposées par le Code de la nationalité depuis le 1er janvier 2013. L'obtention de la nationalité est en effet désormais circonscrite aux étrangers qui possèdent un titre de séjour illimité et qui comptabilisent au moins 5 ans, voire 10 ans, de séjour légal ininterrompu. Le demandeur doit aussi prouver qu'il connaît une des trois langues nationales et démontrer son intégration sociale et sa participation économique, c'est-à-dire concrètement avoir travaillé au moins 468 jours ou avoir payé 6 trimestres de cotisation d'indépendant au cours des 5 dernières années précédant la demande. La naturalisation est quant à elle aujourd'hui strictement réservée aux personnes pouvant témoigner de mérites exceptionnels dans les milieux sportifs, scientifiques ou socioculturels. Belgique toujours, où le dernier rapport de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie annonce une augmentation de plus de 50% du nombre d'euthanasies pratiquées en Belgique en 2 ans. Cette augmentation porte ainsi à 3239 le nombre d'euthanasies pratiquées durant la période 2012-2013, dont 80% de demandes formulées en néerlandais et 20% en français. Selon Jacqueline Hermans, la présidente de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, cette disproportion s'explique notamment par l'usage d'un langage beaucoup plus décomplexé en Flandre, bien que 80% des hôpitaux flamands soient catholiques. Dans son rapport, la commission d'évaluation de l'euthanasie demande donc la publication d'une brochure d'information. Elle insiste aussi sur la nécessité d'inclure dans les études de médecine une formation aux problèmes de gestion de la fin de vie. Elle réclame également plus de personnel et un formulaire de déclaration adapté à un traitement informatique des données. Enfin, face au faible nombre de déclarations anticipées recensées, plusieurs membres de la commission ont répété leurs regrets face à la complexité de la procédure. Euthanasie toujours, mais en France cette fois, où une nouvelle polémique est née suite au refus du quotidien Ouest-France de publier, mi-août, l'avis nécrologique de Nicole Boucheton, la vice-présidente de l'Association française pour le droit de mourir dans la dignité. Atteinte d'un cancer en phase terminale, Nicole Boucheton avait eu recours au suicide assisté en Suisse, une pratique qui n'est pas autorisée par la législation française. Dans le texte de la nécrologie envoyé à Ouest-France, on pouvait lire notamment que Madame Boucheton avait été contrainte de s'exiler en Suisse, pays humaniste. Des allusions qui n'ont pas été acceptées par le quotidien de tradition démocrate chrétienne, arguant, je cite, « que la rubrique obsèques n'est pas une page dans laquelle on ouvre des débats et où l'on règle des comptes ». Fin de citation. Ouest-France a proposé à la famille de la défunte une autre formule, jugée plus neutre, mais que les proches de Nicole Boucheton ont refusé. Le président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, Jean-Luc Romero, a depuis lors annoncé son intention de renvoyer l'avis de décès au quotidien. En cas de nouveau rejet de cet avis, il introduira une plainte au civil pour refus de vente. Signalons que de nombreux Européens choisissent chaque année de se rendre en Suisse pour y bénéficier de la législation sur le suicide assisté. On en a ainsi recensé plus de 600 entre 2008 et 2012, parmi lesquels 268 Allemands, 126 Britanniques et 66 Français. En Irlande, le débat sur le droit à l'avortement est à nouveau relancé après qu'une jeune femme de 18 ans, tombée enceinte suite à un viol, ait été forcée d'accoucher par césarienne après 25 semaines de grossesse. La jeune femme, qui s'était vue refuser le droit d'avorter en Irlande, a bien tenté de se rendre en Grande-Bretagne pour y interrompre sa grossesse, mais le coût du voyage l'en a finalement empêchée. Désespérée, elle a tenté de mettre fin à ses jours avant de se retrouver à l'hôpital où elle a ensuite entamé une grève de la faim et de la soif. Mais la justice a ordonné qu'elle soit artificiellement réhydratée et nourrie pour permettre la survie de l'enfant. Une décision qui a en fin de compte abouti à un accouchement forcé par césarienne fin août. L'enfant est aujourd'hui en soins intensifs. Rappelons qu'en Irlande, l'avortement n'est autorisé que dans le cas où la grossesse fait courir à la mère un risque réel et substantiel pour sa vie. Un risque qui inclut officiellement les tendances suicidaires de la mère, mais qui doit être attesté par un panel de spécialistes. Un panel qui, dans le cas présent, a estimé que le risque pour la vie de la mère n'était pas avéré, bien qu'elle ait clamé haut et fort qu'elle préférait mourir que de porter un enfant issu d'un viol. Selon la porte-parole de l'association Doctors for Choice, qui réunit des professionnels de santé militants pour le droit des femmes à disposer de leur corps, cette histoire, je cite, « ne se serait produite dans aucun autre pays civilisé et démontre une fois de plus que la loi irlandaise n'est pas adaptée ». Henri Bartholomew Hussein, bonsoir. Je le disais en introduction, vous êtes le président du Centre d'Action Laïque, une fonction que vous occupez depuis 6 mois maintenant. Et depuis votre élection, vous avez eu l'occasion de vous exprimer à plusieurs reprises dans la presse. Dans vos interviews, vous insistez régulièrement sur le fait que la laïcité est pour vous une des clés de l'avenir pour l'humanité. Alors, exprimer comme ça, ça peut paraître ambitieux. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous expliquer ce que vous entendez exactement par là ?
Eh bien, je pense qu'il faut être clair et oser préférer au XXIe siècle le mot « laïcité » à la tolérance ou encore à la neutralité. Ni la tolérance ni la neutralité n'ont jamais pu endiguer le fondamentalisme, les radicalismes, les intégrismes. Et bien au contraire, le radicalisme s'empare avec aisance de notre capacité à tolérer pour investir l'espace public. Au contraire, l'État laïque autorise, lui, toutes les convictions sans s'en revendiquer d'aucune. Et cette laïcité-là, me semble-t-il, est le gage de l'avenir pour l'humanité, particulièrement au moment où cette humanité tout entière se surprend à habiter la même maison, à habiter la même planète et où les frontières tant intellectuelle que physique s'estompe.
Vous parlez de la laïcité sous l'angle de valeurs universelles, mais quand on parle de laïcité en général, on revient toujours avec 3 valeurs essentielles, liberté, égalité, solidarité. Comment s'articulent ces valeurs selon vous et comment s'incarnent-elles concrètement ?
Eh bien, au centre effectivement de ce triptyque, ou plus exactement la première valeur de ce triptyque, c'est la liberté. Et c'est bien la puissance d'émancipation qui est au centre de la préoccupation du monde laïque. La liberté des individus, c'est leur autonomie, c'est leur aptitude à maîtriser leur destin, tant individuel que collectif. Et cette liberté, évidemment, ne peut se concevoir, ne peut s'entretenir que dans un rapport d'égalité, un rapport hiérarchique contraint. Et donc, à l'échelle d'une société, à l'échelle de l'humanité en tout cas, la liberté n'a de sens, ne peut se développer que si on est capable de concevoir des rapports égalitaires. Et cette égalité, on peut bien sûr la postuler, on peut dire que tous les hommes sont égaux, mais ça reste un vœu pieux si on ne se rend pas compte que la vie, le déroulement de l'existence entraîne forcément des blessures, des maladies, des inaptitudes, des échecs, qui vont très rapidement mettre à mal ce rapport égalitaire. Et donc il nous faut un troisième terme, c'est ce que certains appellent la fraternité, mais ce que nous pourrions appeler plus facilement la solidarité, et qui nous permet à chaque instant de s'assurer de l'égalisation, de la réégalisation de situations injustes où l'homme en principe peut se retrouver en plein épanouissement.
Néanmoins, entre la laïcité dont parle parfois une certaine extrême droite, comme le Front National en France, pour ne pas le citer, et d'autre part les prises de position de ceux qui réclament aujourd'hui une laïcité ouverte, il semblerait qu'il y ait plusieurs interprétations possibles de ce qu'est la laïcité. Alors en tant que président du CAL, votre plus grand défi n'est-il pas aujourd'hui de clarifier cette idée même de laïcité auprès du grand public ?
Mais vous avez parfaitement raison, certains mouvements se revendiquent de la laïcité pour justifier l'atteinte qu'ils portent assez facilement à ce qui est différent, à ce qui est étranger, à ce qui est faible. Ce stratagème, cette manière de procéder est assez grossière et il n'est pas trop compliqué d'y répondre. C'est le vieux système du loup qui revêt la pelisse de l'agneau. À côté de ça, il y a des gens de meilleure foi, si j'ose dire, qui commettent une erreur prodigieuse, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à confondre, je dirais, les idées et les hommes, et qui, lorsque l'on s'attaque à un principe, lorsque l'on s'attaque à un concept, lorsque l'on s'attaque à une foi éventuellement, ou à une pratique religieuse, pensent que l'on s'attaque également à la personne. Et le risque, évidemment, de ce politiquement correct, c'est à brève échéance de confondre, par exemple, la xénophobie avec, la libre expression. C'est de confondre la laïcité avec l'islamophobie. Voilà le risque où cela nous mène. C'est généralement non pas le fait d'une mauvaise volonté, c'est le fait surtout d'un manque de discernement. Vous avez encore une troisième manière de procéder qui est la plus subtile, qui est le fait de certains traditionalistes et qui consiste à affecter le mot laïcité d'un qualificatif. Ainsi en parlera-t-on de laïcité ouverte, comme s'il pouvait exister une laïcité fermée. Et au fond, en prétendant qu'il existe une laïcité fermée, on disqualifie le terme même de laïcité. Là aussi, il faut être attentif. Alors entre, si vous voulez, le camouflage des loups, entre l'irénisme compassionnel d'une certaine gauche, j'oserais le dire, ou encore les sophismes des traditionalistes, il faut que nous trouvions, nous laïcs, notre chemin, il faut que nous replacions la laïcité au centre du débat dans l'opinion publique.
Et encore, vous dirais-je, s'accorder sur une même définition de la laïcité n'empêche pas d'avoir des avis différents sur de nombreux sujets de société. Eliane de Proust, en tant que secrétaire générale du Centre d'Action Laïque, est-ce que c'est un fait que vous observez souvent, vous, au sein du mouvement laïque ?
Mais je pense que derrière le mot laïcité, il y a déjà toute une série de définitions, de conceptions différentes, et le président vient d'en évoquer certaines, et repensons un peu dans l'histoire aussi aux systèmes politiques qui ont interdit non seulement la pratique de la foi, mais la foi tout court. Je dis, et toujours aujourd'hui, on est dans le bloc de l'Est plus dans la même situation, puisque l'Église catholique a repris ses marques avec force et vigueur, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand on voit le Maghreb, effectivement, la laïcité prend un tout autre coloration que chez nous. Et pourtant, les jeunes Tunisiens, lorsque nous sommes là-bas il y a 2 ans, disent « Mais pourquoi n'avez-vous pas intitulé votre moment de travail « Réflexion sur la laïcité » ?»
Parce que eux à l'occasion beaucoup, du Forum social mondial,
voilà,
pour le rappeler.
Eux tiennent beaucoup à ce concept-là, parce que c'est un concept qui, pour eux, définit vraiment une capacité de liberté de choix, d'émancipation, etc. Et c'est extrêmement important. Alors, effectivement, ici, en Belgique, je dirais, on n'a pas une définition unique, même à l'intérieur du mouvement. J'emploie le mouvement au sens extrêmement large. Mais autant il y a des sujets sur lesquels je pense que l'ensemble des laïcs de Belgique sont d'accord. On va parler d'interruption de grossesse, d'euthanasie, je dirais les questions éthiques de façon générale. Autant sur, que puis-je prendre comme exemple, la suppression du cours de morale, le fait d'arriver à un réseau unique d'enseignement. Mais là, les débats sont vifs et le seront encore pendant un temps.
En fin de compte, ça peut paraître une boutade, mais est-ce que la diversité du mouvement laïque que vous venez de rappeler ici à travers quelques exemples, si elle en garantit la richesse, c'est une certitude, est-ce qu'elle n'est pas aussi son principal handicap ?
Handicap peut-être à certains moments en matière de communication, quand vous avez telle grosse association laïque qui exprime tel point de vue et puis une autre, un autre point de vue, puis le cadre communautaire où nous sommes qui est censé faire un petit peu la synthèse de tout ça et qui exprime encore un troisième point de vue, ça peut effectivement être difficile. En même temps, je pense que c'est une caractéristique de ce que justement il y a cette autonomie, il y a aussi nous sommes un groupe d'hommes et de femmes, ce plaisir de l'échange, du débat, parfois vif, c'est vrai, mais qui nous maintient en vie aussi.
Une des particularités du mouvement laïque belge, c'est qu'on y parle souvent, on y fait même la distinction entre laïcité philosophique et laïcité politique, ce qui est moins le cas en France. Alors Henri Barthélemy-Hussein, pourquoi cette distinction ?
Eh bien, je vous donnerai le fond de ma pensée. Je ne suis pas partisan de cette distinction. comme je le disais tout à l'heure, affecter le terme même de laïcité d'un qualificatif est dangereux. Si j'en fais le grief à certains, ce n'est pas pour le reprendre à mon compte. En réalité, il n'existe qu'une laïcité, que je pourrais assimiler à la laïcité politique. Cette laïcité consiste effectivement, je l'ai dit, à défendre l'émancipation de l'individu, à le rendre créancier à l'égard de l'État, qui lui doit son impartialité. Cette laïcité-là autorise, prône la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de culte. Cette laïcité-là a pour obligation de s'assurer de ce que chaque individu a accès à ce patrimoine de la connaissance, à cette algèbre commune propre à l'humanité et à se fonder sur l'expérience plutôt que sur la tradition ou sur la transcendance. Au-delà de cela, en Belgique, cette laïcité-là a été investie d'une mission. Et cette mission consiste à assurer la défense et les valeurs d'une communauté particulière, de la communauté dite non confessionnelle, qui, sans elle, serait restée un petit peu à la manière de la matière noire dans l'espace. Ce n'est pas un péché vu de cette manière, en ce sens que la maladie est antérieure. C'est parce que le législateur belge a trahi la Constitution. C'est parce que le législateur belge, un jour, a décidé de subsidier le culte et les religions qu'il fallait tenter, dans la mesure du possible, de rectifier l'équilibre et de faire en sorte qu'une communauté, si l'on peut parler d'une communauté s'agissant de l'ensemble de la société des laïcs et des agnostiques, puisse effectivement ne pas rester isolée, seule et démunie. Notamment dans des domaines où ces hommes ou ces femmes sont particulièrement en état de faiblesse. Je songe, bien sûr, à l'assistance morale aux détenus, je songe à l'assistance dans les hôpitaux, je songe à l'assistance dans les maisons de repos. C'est à ce moment-là, précisément, qu'effectivement, si l'État est défaillant parce qu'il a décliné, parce qu'il a délégué, en quelque sorte, son devoir d'assistance à des associations confessionnelles, il était normal de tenter de rétablir l'équilibre au profit d'associations non confessionnelles.
Mais au sein même du monde laïque belge, tout le monde ne s'accorde pas sur les bénéfices de ce choix. On sait que certains laïcs estiment par exemple qu'en acceptant les subventions publiques dont vous venez de parler, le CAL, le Centre d'Action Laïque, est devenu, je cite, « le fossoyeur du principe de laïcité qu'il est censé défendre ». Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux personnes qui se font les relais de ce type de critique ?
Eh bien, je viens de le dire. Dans un État laïque idéal, ce type d'État même dans lequel nous ne nous trouvons pas aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de subventionner la laïcité. La laïcité, ou plus exactement, les communautés non confessionnelles, sont subventionnées. Mais c'est pour porter remède à un mal préalable. Le fait, pour le législateur, j'ai dit, d'avoir trahi la Constitution et financé les cultes. Prétendre aujourd'hui qu'il suffirait de renoncer aux subsides pour transformer l'État, c'est prétendre que c'est le remède qui provoque la maladie et non l'inverse. Autrement dit, on a affaire à un propos de forain sur lequel, je pense, il ne convient pas d'insister.
Eliane de Proost, nous vivons aujourd'hui en Belgique et dans d'autres pays européens d'ailleurs, dans une société où la diversité est un fait et où cette diversité s'affirme de surcroît, alors ce qui a parfois pour conséquence de creuser des fossés entre les personnes, les groupes sociaux, certains diraient même les communautés. Comment les laïcs abordent-ils justement cette question de la diversité ?
Peut-être d'abord, au risque de passer pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, dire qu'il y a toujours eu des diversités. Souvenons-nous du curé du village et de l'instituteur en face à face. Dans un certain nombre de films, on était déjà dans des clivages. Ceux auxquels vous faites allusion sont évidemment liés aux flux migratoires que nous connaissons depuis des dizaines d'années. Qu'une partie des citoyens d'origine belge refuse de voir comme une richesse. Que certains laïcs partagent cette critique en disant qu'ils apportent plus d'ennui que d'apports positifs, etc. Mais moi, je vous inviterais à aller à la sortie de toute une série d'activités organisées par le Centre d'Action Laïque ou ses régionales, de l'aide aux devoirs, de l'alphabétisation des femmes, des festivals culturels, etc. Et vous y verrez que la laïcité n'est pas un mot dans l'article 1 des statuts, mais effectivement une réalité. Nos publics sont variés. Et ils s'expriment avec toutes leurs différences. Je pense que là où nous tentons de faire un travail de fond, c'est que ces différences ne deviennent pas systématiquement des divergences.
Alors, c'est que certains voient aussi dans la prétention de la laïcité à être une valeur universelle, on l'a rappelé en introduction de cette émission, on y voit une attitude autocentrée, ethnocentrée même, ou voire encore une manifestation de condescendance postcoloniale. C'est un avis qui s'est notamment cristallisé au sein d'une partie de la jeunesse ces dernières années autour du débat sur les signes religieux ostensibles, et plus particulièrement, il faut le dire, sur le port du voile à l'école. Alors, Éliane de Prost, est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité du CALD, du Centre d'Action Laïque, de clarifier la position des laïcs sur cette question aujourd'hui?
Je pense que la question a été clarifiée et il faut reconnaître que le conseil d'administration, il y a 3 ou 4 ans, a fait un travail de fond qui a duré des mois, qui a été traduit dans une brochure à caractère juridique, certes un peu aride, mais qui donne bien tous les éléments du pourquoi de ce besoin dans l'école, mais aussi dans la fonction publique, effectivement, d'une ouverture à tous les publics sans a priori.
En deux lignes, la position du CAL à ce sujet, c'est quoi?
La position du CAL, c'est pour tout fonctionnaire, et même en seconde ligne, pas de port de signe convictionnel. Pourquoi même en seconde ligne? Parce que si vous êtes, et on a connu le cas à l'ENEM il y a quelques années, vous êtes secrétaire, vous êtes derrière, vous apprenez le néerlandais, j'invente l'exemple, et vous voulez passer au guichet d'accueil. Ah oui, vous pouvez, mais il faut enlever le foulard. Ça ne va pas. À l'école, pourquoi? Parce qu'effectivement, mais on commence l'école pas sur un pied d'égalité, mais justement en identifiant les enfants qu'on sépare déjà pour les cours de religion et de morale, par leurs vêtements. Mais on parle toujours des petites filles, il y a quand même aussi la situation des gamins qui se font, excusez-moi, un peu casser la figure pendant le ramadan s'ils osent boire un coca, etc. Donc la position du CAL est très claire, elle a été traduite en plus dans des petites bandes dessinées qui expriment très très clairement le point de vue. Le problème, vous l'avez souligné dans votre question, c'est qu'une partie du public, et notamment du public de gauche, n'accepte pas cette position sous prétexte qu'elle n'est pas respectueuse de la liberté de conscience et de l'expression de cette liberté de conscience. Voilà, c'est une question de point de vue. Nous ne sommes plus très nombreux à penser que c'est un mieux pour les personnes. Mais voilà, je pense que, me semble-t-il, le CAL n'est pas prêt de changer d'avis à ce propos.
À ce sujet, il faut peut-être aussi rappeler que cette position n'est pas sortie d'un chapeau, mais qu'elle est aussi le fruit d'une longue maturation, de longs débats,
oui,
au sein même du monde laïque.
Bien sûr.
Peut-être pour continuer sur un domaine connexe, en fin de compte, parce qu'on dit qu'ils sont porteurs de valeurs universelles, et c'est un fait, mais est-ce que les laïcs sont assez impliqués pour autant dans le combat antiraciste aujourd'hui? Parce qu'on a parfois le sentiment qu'on marche sur des œufs dans ce débat.
Alors, de façon générale, en communauté française, en tous les cas, tout le monde marche sur des œufs. Tout le monde marche sur des œufs parce qu'il y a par moments une confusion entre l'antiracisme pur et dur, entre la nécessaire prévention, le travail pédagogique, etc. Il faut bien reconnaître que la mort quasi annoncée du mouvement historique, le MRAX, n'aide pas, que la plateforme antiraciste mise en place par l'ancienne ministre de la Culture n'a pas donné, à mon estime, les résultats attendus. Et donc, effectivement, je pense que le CAL n'est pas un organe qui doit déposer des plaintes toutes les 5 minutes. Je pense que ce n'est pas notre core business. Je pense, par contre, que nous devons dénoncer tout le temps et partout toute forme de discrimination, toute forme de racisme, d'homophobie, etc. Et là, nous rejoignons nos valeurs et nos piliers de base.
Qui ont été expliqués tout à l'heure par Henri Barthélemy-Hussein. Justement, Henri Barthélemy-Hussein, sur cette question de l'antiracisme, on l'a dit en introduction, vous êtes président du Centre d'Action Laïque depuis 6 mois maintenant. Comment abordez-vous, qui êtes, en fin de compte, frais dans le mouvement, cette question, cet enjeu, c'est une priorité? Enfin, comment l'abordez-vous?
Mais je dirais que l'antiracisme, ça fait partie de l'ADN même de la laïcité. Donc ce ne sont pas les laïcs qui marchent sur des œufs, pour reprendre votre expression. Le malaise vient plutôt, me semble-t-il, de certains mouvements antiracistes, de certains défenseurs des droits de l'homme qui oublient trop rapidement que les valeurs qui sous-tendent leur action sont précisément les valeurs de la laïcité, sont vraiment les valeurs universalistes. Donc on renverse un petit peu, si vous voulez, la difficulté. Dans un souci protectionnel, et ça part d'un bon sentiment, ils craignent l'amalgame entre conviction, foi, ethnie, et ils finissent par qualifier de racistes des prises de position critiques à l'égard parfois de religions ou des partisans de religions, principalement lorsque ces religions sont partagées par des hommes et des femmes issus d'autres régions du monde. Et au fond, en pratiquant de la sorte, ils provoquent ce qu'ils redoutent. En pratiquant de la sorte, ces mouvements ne servent pas leur cause et s'exposent alors à la critique de gens bien moins intentionnés. Voilà l'enjeu.
Bien moins intentionné, on en a parlé tout à l'heure, notamment par la reprise des...
Par l'extrême droite notamment.
Pour la citer. Je vois que l'émission touche progressivement à sa fin. Il est peut-être temps aussi de parler des chantiers à venir du Centre d'Action Laïque avec vous, Henri Bartholomé-Hyssen. Pour conclure, en fin de compte, quels sont les grands chantiers que vous allez mettre en œuvre durant votre mandat ici au Centre d'Action Laïque?
Il faut d'abord rappeler que les grandes valeurs laïques ne demandent pas à être redécouvertes. Et ça fait partie effectivement d'une réflexion que nous devons mener. L'erreur serait pour autant de penser qu'une fois dites, ces valeurs ne devraient pas être répétées, explicitées, soumises à la contradiction, discutées, actualisées. Et dans le fond, outre le travail de réflexion et d'action que nous menons, que nous accomplissons principalement sur la jeunesse, sur l'école, sur la démocratie, dans ces différents niveaux de pouvoir, eh bien, je pense qu'il y a un chantier qui s'ouvre à nous de manière tout à fait impromptue, tout à fait récente. C'est effectivement un chantier qui vise à la communication. Cette première émission, vous l'avez dit, est une émission libre ensemble. Elle signifie bien l'intention. On se réapproprie d'une certaine manière une parole, un propos, un état d'esprit. Et notre souhait aujourd'hui, et ce sera vraiment le grand chantier, c'est que plutôt que d'être entendu, nous souhaitons être compris.
Henri Bartholomé-Hyssen, Eliane de Prost, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Libre Ensemble qui sera consacrée à Go Laïcitad, une colophilo unique en son genre. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne semaine à toutes et à tous. Bonsoir.